BW. Magazine Santé.
Six mois après la déclaration par l'OMS de la COVID-19 comme pandémie, les fausses informations sur la maladie continuent de se répandre sur les réseaux sociaux. C'est le cas par exemple du port du masque. Beaucoup pensent encore que les masques que nous portons pour nous protéger contre le coronavirus sont nocifs pour la santé. Avec le docteur Manikassé Paluma de la clinique médicale santé pour tous à N'Djamena, nous allons vous démontrer que les masques ne sont pas dangereux pour notre santé. Dans la deuxième partie de ce magazine, nous parlerons d'une pathologie proche de la maladie de Kawasaki. Elle a fait son apparition pendant cette épidémie de la COVID-19 chez certains enfants. Il s'agit du syndrome inflammatoire multisystémique. Et en fin d'émission, nous reviendrons sur la maladie d'Alzheimer, puisque ce lundi 21 septembre est la journée mondiale dédiée à cette maladie. Des dizaines de millions de personnes en souffrent dans le monde. Voilà pour le sommaire. Nafisa Amadou au micro. Bienvenue. Porter ou ne pas porter dans les espaces publics. Dans plusieurs pays à travers le monde, le port du masque est devenu obligatoire pour limiter la diffusion du coronavirus. Mais ils sont aussi nombreux, même très nombreux, à véhiculer de fausses informations sur les réseaux sociaux autour du port du masque. Certaines personnes estiment ainsi que les masques sont inutiles, voire même nocifs à la santé. Certaines vont jusqu'à affirmer que le port du masque diminuerait l'apport en oxygène et affaiblirait le système immunitaire. Le masque est-il dangereux pour la santé? Écoutons ensemble la réponse de Dr Manikassé Paluma de la clinique médicale Santé pour tous à N'Djamena au Tchad.
Les cache-nez ou bien les masques que les gens portent, en principe, ne doivent pas donner des problèmes respiratoires. Donc, étant donné que la constitution de la masse laisse facilement passer de l'air, par contre, qui ne laisse pas passer le virus en question. Donc, les mains sont extrêmement favorables au passage de l'oxygène. Et donc, il n'y a pas de raison pour que ces gens-là présentent des problèmes respiratoires. Mais néanmoins, nous constatons de nos jours, les masques ne respectent pas les normes. Si un masque ne respecte pas les normes, il va de soi que ces gens de gens peuvent présenter des problèmes respiratoires.
Oui, docteur, d'autres allèguent également que les masques sont des nids de virus. Est-ce vrai? Si oui, comment faire pour éviter cela?
Voilà, je prends par exemple celui qui a déjà le COVID-19. Il porte les masques. Effectivement, le masque est chargé de retenir les microbes, que ce soit le virus. Si vous-même, vous avez déjà le virus dans votre corps, vous allez retenir dans votre masque. Mais ce n'est pas la personne qui est en face de vous qui va vous envoyer le virus et que ça va être retenu au niveau de votre cache-nez. C'est lorsque vous en aviez, vous respirez, vous faites sortir le virus, ça peut être retenu au niveau de votre masque. Donc, essentiellement, de votre part, mais pas ailleurs. D'ailleurs, les gens ne peuvent pas se permettre de fabriquer les masques et mettre du virus dedans pour avoir une concentration de virus dedans. Ça, c'est les réseaux sociaux, mais c'est des interprétations. Normalement, les masques ou les cache-nez qui respectent les normes ne doivent pas contenir ce genre de microbes.
On dit également que les masques détériorent le système de santé immunitaire. Que dites-vous, docteur?
Je ne crois pas du tout, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être allergiques à des substances cache-nez, mais ça ne veut pas dire que ceci doit altérer leur immunité. Ce n'est pas possible. Donc, je ne crois pas, je ne vois pas le mécanisme par lequel le masque peut entraîner une immunité chez une personne.
De manière générale, quel conseil avez-vous à donner aux citoyens par rapport au port de masque?
Bon, moi, je dirais toujours qu'il faut que les citoyens continuent à porter des masques. Ça peut avoir une incidence positive sur la propagation de la maladie. En portant les masques, ça vous protège et ça protège les autres aussi.
C'était les explications de Dr Manikase Paluma. Il répondait aux questions de Blaise Dariuston, notre correspondant à N'Djamena. Vous l'avez certainement compris, les masques ne sont pas dangereux pour la santé. En tout cas, pas ceux qui respectent les normes. Au contraire, ils nous protègent contre la COVID-19. Prudence, prudence donc aux fausses informations sur les réseaux sociaux. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre seulement sur la DW. Dans la seconde partie de notre magazine Santé, nous allons parler du coronavirus chez les enfants. En avril dernier, des médecins lançaient l'alerte sur l'apparition de symptômes inflammatoires semblables à ceux de la maladie de Kawasaki, ayant un lien temporel avec le coronavirus chez quelques patients pédiatriques. Le syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant, c'est son nom, il touche enfants et adolescents. La maladie peut entraîner une inflammation des vaisseaux sanguins et dans certains cas, des lésions cardiaques. Une équipe de médecins du Texas aux États-Unis a examiné 662 cas de syndrome inflammatoire multisystémique signalés dans le monde entier entre le 1er janvier et le 25 juillet 2020. Au total, 71% des enfants ont dû être traités dans l'unité de soins intensifs sur près de 90% d'enfants ayant subi un échocardiogramme. Les médecins ont constaté un dysfonctionnement cardiaque chez bien plus de la moitié d'entre elles. Tous les enfants souffraient de fièvre et une grande partie d'entre eux avaient des douleurs abdominales ou des diarrhées et des vomissements. 11 enfants sont morts, ceci correspond à 1,7%. La plupart des enfants ont été testés aux anticorps du coronavirus. Cela signifie qu'ils ont attrapé le virus plus tôt, mais que leur organisme l'a combattu, selon le communiqué du Centre des sciences de la santé de l'Université du Texas à San Antonio.
Selon les données, les enfants n'avaient pas besoin de présenter les symptômes classiques des voies respiratoires supérieures de la COVID-19 pour développer le syndrome inflammatoire multisystémique, ce qui est effrayant. Nous devons continuer à suivre de près ces enfants pour comprendre les implications qu'ils peuvent avoir à long terme.
Je le disais, les symptômes du syndrome inflammatoire multisystémique sont similaires à ceux de la maladie de Kawasaki, une maladie rare bien connue avant la pandémie du coronavirus. Elle touche les très jeunes enfants, mais l'importance de l'inflammation de cette nouvelle maladie dépasse celle de Kawasaki, explique Nikolaus Haas. Il dirige le département de cardiologie pédiatrique et de médecine pédiatrique de soins intensifs à l'hôpital universitaire Ludwig-Maximilian de Munich en Allemagne.
Les symptômes cliniques peuvent être des symptômes classiques du syndrome de Kawasaki. À ces symptômes, il faut ajouter les signes typiques d'une réaction inflammatoire dans le sang. Les globules blancs augmentent, les patients ont de la fièvre. Les syndromes inflammatoires multisystémiques affectent souvent le cœur, les reins, le poumon, le foie ou le système nerveux central.
En Allemagne, sur 200 enfants admis à l'hôpital et présentant les symptômes d'une maladie inflammatoire, 40 sont diagnostiqués positifs au syndrome inflammatoire multisystémique. Le test de coronavirus était cependant négatif dans 92% des cas. Docteur Nikolaus Haas.
Dans toute l'Allemagne, avec plus de 200 000 cas détectés, il n'y a eu que 200 enfants qui ont dû être hospitalisés, dont un seul cas de décès. Toutefois, cela n'était pas dû au syndrome inflammatoire multisystémique, mais à une erreur de gestion.
Docteur Nicolaus Haas a noté enfin que les enfants noirs, hispaniques ou d'origine indienne sont relativement plus touchés par le syndrome inflammatoire multisystémique que les enfants blancs. Ce lundi 21 septembre est la 27e journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Elle est la forme de démence la plus courante. Les médicaments actuels n'atténuent que temporairement les symptômes et ne ralentissent pas le déclin mental. Mais la science pourrait bientôt réaliser un grand pas dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer à travers la mesure du taux d'une certaine protéine dans le sang. Des scientifiques affirment que la détection de la maladie par test sanguin sera bientôt possible. Le test a permis de différencier les personnes atteintes d'Alzheimer des personnes atteintes d'autres types de démence ou celles dont le cerveau est sain, avec une précision variant de 89% à 98%. Les résultats révélés en juin dernier par le docteur Oscar Hansson de l'Université de Lund en Suède suggèrent que les scientifiques sont donc sur la bonne voie. Et c'est sur cette bonne nouvelle sur la recherche sur la maladie d'Alzheimer que prend fin ce magazine Santé, un magazine à réécouter sur notre site internet. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.